Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler d'espionnage et notamment du renseignement français et de la Chine, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Isambard, journaliste au magazine Challenge, auteur notamment avec Franck Renaud de Trahison à la DGSE, secret de famille du vrai bureau des légendes paru il y a quelques mois aux éditions Stock. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour Alexandre.
Alors c'est un ouvrage qui a un spectre assez large, comme l'indique son titre, qui est axé, disons, sur certains organes du renseignement français qui ont un peu capté l'intérêt du grand public grâce à la série Canal Plus à succès. Si bon, l'intérêt général et populaire pour les histoires d'espions n'a pas non plus attendu le Bureau des légendes, c'est quand même une grande constante. Mais je l'ai dit en introduction, c'est un ouvrage qui se penche plus particulièrement, ou plus extensivement en tout cas, sur le renseignement sur la Chine, alors l'espionnage chinois en France, mais aussi l'espionnage français, ou en tout cas les tentatives françaises de faire de l'espionnage en Chine, parce que on verra que ça communique et que c'est toujours un peu des histoires d'agents simples ou doubles à l'interface entre les deux pays qu'on essaye de retourner et de re-retourner, et c'est évidemment pour ça que c'est si compliqué, et que ça finit relativement mal, en l'occurrence pour le renseignement français, même si votre spectre est plus large et que vous abordez d'autres pays problématiques. Je peux d'ailleurs signaler que c'est un sujet sur lequel vous aviez déjà travaillé au sens large, puisque vous aviez publié en 2019 « France-Chine, liaison dangereuse » chez le même éditeur, donc Stock. Et notamment cet ouvrage, « Trahison à la DGSE », s'axe en grande partie autour d'une histoire qui est peut-être révélatrice, ou en tout cas symbolique, du problème sur lequel vous travaillez plus généralement, qui est une histoire d'espion qui s'étend sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais qui éclate en 2017 et qui est jugée définitivement en 2020, de deux anciens agents du renseignement français, qui ont été assez haut placés de manière diverse, qui sont jugés et condamnés pour avoir travaillé pour le compte de la Chine. Alors pour commencer, dites-nous peut-être comment vous en êtes arrivé à cette affaire, qui j'imagine a été sinon un déclencheur, au moins un point de fixation pour toute cette enquête plus large, sur le renseignement français et ses dysfonctionnements au moins ponctuels.
Au départ, c'est mon co-auteur Franck Renaud qui avait écrit un bouquin en 2010, Les diplomates. Et en 3-4 lignes, il avait raconté qu'Henri, donc l'un des deux espions qui ont trahi...
On va dire tout de suite, c'est pas son vrai nom. Henri, c'est, vous avez changé les noms...
Henri est le vrai nom.
Henri est le vrai nom.
On a juste donné le prénom, on n'a pas donné... On n'a pas donné le nom exact, même si à l'époque ça avait été publié dans certains médias quand ils ont été condamnés. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu, notamment pour leur famille. Voilà. Et donc Franck avait révélé en 4 lignes le fait qu'il avait eu une relation, Henri, avec une Chinoise en 1998. Ce qui lui avait valu après des retours de mail assez incisifs d'Henri. Et il avait un peu laissé tomber après. Et donc en 2018, Quotidien, à l'époque, l'émission d'Yann Barthès, sort l'info comme quoi les deux ont été arrêtés. Moi, j'étais en train de terminer un bouquin sur la Chine que vous avez cité. Et donc j'avais échangé avec Franck à ce moment-là. Et on s'était dit, c'est une affaire intéressante, mais on n'avait pas matière... spécialement à la documenter. Et puis en juillet 2020, il y a eu la condamnation, il y a eu le procès à huis clos. Et donc là, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de raconter finalement. C'était quand même quelque chose de nouveau à l'époque que la DGSE et le ministère des Armées fassent un article 40, judiciarisent l'affaire. Alors généralement, on laisse plutôt ça sous le tapis. Et donc il y a eu un procès à huis clos très étonnant où on a pu assister un petit peu qu'au début, durant une vingtaine de minutes. Et puis les cinq jours de procès après étaient à huis clos. Ils nous ont rappelé le vendredi soir. On a pu assister à une partie finalement du verdict. Mais on avait trouvé qu'il y avait vraiment une matière assez importante et donc on s'est coordonné, on a fait appel à des anciens contacts et puis au bout de 18 mois d'enquête, on a été en mesure de publier un peu cette histoire-là telle qu'elle s'est déroulée.
Alors racontons-la, donc il y a le point de départ qui est donc la liaison entre un espion, enfin un agent du renseignement français en poste en Chine avec une chinoise, mais ça c'est vraiment le tout début de l'affaire et qui ensuite se déroule, se déplie parce que c'est vraiment le point d'entrée pour les services de renseignement chinois dans tout un tas de contacts et de recrutements intéressants au sein de l'écosystème du renseignement français. Alors peut-être, voilà, racontez-nous très simplement comment cet Henri s'est fait recruter ou retourner par les services secrets chinois.
Alors Henri, c'est quelqu'un qui est diplômé de Saint-Cyr, qui entre à la DGSE en 82. Il va rester jusqu'en 1990, il va être analyste boulevard Mortier, il va notamment faire beaucoup d'Afrique. Et en 90, il part durant 3 ans au Sénégal, à Dakar, donc plutôt sur des domaines de renseignement politique et militaire. Il revient en 93, boulevard Mortier, et il va prendre là une unité qui est assez sensible, qu'on appelle CEOPS pour le contre-espionnage opérationnel. Donc il va mener des opérations, il va piloter des opérations sur des agents de renseignement étrangers qui évoluent, on va dire, dans un environnement européen et mondial. Et en 96, il est nommé chef de poste à Pékin, qui à l'époque est une... Et un poste qui est important, mais qui est quand même loin d'être stratégique pour la DGSE et d'ailleurs pour la France, qui ne fait pas du renseignement et de la Chine un domaine quand même très important. À ceci près que finalement, il y a la rétrocession de Hong Kong à la couronne, enfin de la Grande-Bretagne à la Chine, qui va se passer en 97. Et donc, la DGSE a quand même envie d'avoir un petit peu des yeux là-bas. Et Henri est notamment envoyé pour voir ce qui se passe là-bas et pour documenter un petit peu les circuits financiers, militaires, chinois, puisqu'on est quelques années, 7 années après Tiananmen. Il y a un embargo sur les ventes d'armes, mais beaucoup de pays et d'hommes d'affaires, notamment français, font du commerce avec la Chine. Donc il y a tout cet écosystème-là à regarder. C'est quelqu'un qui est un pur produit, encore une fois, du contre-espionnage, quelqu'un d'assez conservateur, qui va pas tellement aimer la Chine, finalement. Il parle mandarin, il s'est formé au chinois, mais il a un peu de mal à évoluer en Chine, qui est un pays quand même très compliqué, un peu comme la Russie, pour faire du renseignement. Et assez rapidement, il va céder et entreprendre une histoire d'amour avec l'interprète chinoise de l'ambassade, qui a 32 ans. Lui, il en a une cinquantaine d'années. Et... donc voilà, au début, ça circule un petit peu à bas bruit dans l'ambassade, et puis au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Même sa femme, qui vit en France, à Versailles, découvre un peu le poteau rose, et finalement, au début 98, Pierre Morel, qui est l'ambassadeur, a les éléments et a la confession d'Henri, qui est rappelé illico, il prend un vol bleu à Paris.
Les vols bleus, c'est l'expression qui est consacrée pour ces espèces de rapatriements d'urgence d'agents qui ont été compromis, quoi.
Voilà, exactement. Et donc il rentre à Paris, il est débriefé, il est mis au placard, et puis durant l'été, il est mis d'office à la retraite. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de repartir en Chine avec l'interprète qu'il a rejoint entre-temps en France. Et donc c'est ça, c'est à l'automne 98 qu'il va commencer finalement à coopérer, à rencontrer les services chinois, en l'occurrence le MSE, ministère de la Sécurité de l'État, qui est le plus important service de renseignement chinois, qui fait du contre-espionnage, du renseignement extérieur. Qui fait 200 000 agents, alors que voilà, la DGSI, c'est 4 500, la DGSE, c'est 7 000, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, il va donner un petit peu les clés aux Chinois de comment fonctionne la DGSE, comment...
C'est ça qui est très intéressant, c'est de voir ce qui intéresse les Chinois. On parlera de périodes plus récentes, mais à ce moment-là... Ce que vous décrivez, c'est que les Chinois, mais de la même manière que les Français connaissent, ont un peu de mal avec l'écosystème chinois, les Chinois ont un peu du mal avec l'écosystème français, donc ils cherchent rien de particulièrement spécifique, quoi. Ils cherchent juste un peu à comprendre la machine, quoi.
Bien sûr, ils ont un agent d'un service occidental qui est sous la main, donc voilà, il va leur aider à voir comment fonctionne la DGSE.
Et ce qui explique aussi que ce soit pas gênant qu'ils soient plus en poste, quoi. Enfin, s'il s'agit juste de comprendre l'organigramme, il le sait aussi bien que quelqu'un. C'est pas comme avoir du renseignement frais et neuf, quoi.
Bah, il va donner quand même quelques noms. Il va donner l'organisation de la DGSE en Chine. Donc, c'est quand même important. Sur les clandestins, lui, en tout cas, il s'est toujours défendu d'avoir donné des noms de clandés qui auraient pu être exécutés ou emprisonnés le cas échéant. Donc, mais en tout cas, il a été démontré qu'il avait donné quand même aux Chinois les clés de l'organigramme DGSE en Chine. Et également des noms d'agents à Paris. Donc c'est surtout ça qui lui a été véritablement reproché.
Et ce qui est intéressant, c'est une histoire de fait la poule un peu. Enfin, est-ce que dès le début, son interprète était un agent du renseignement chinois, que donc il a été mis au placard à bon escient et que ce recrutement a mine de rien fini par payer parce qu'on on parlera peut-être de pourquoi la DGSE a pas bondi tout de suite. Ou est-ce que c'est, au fond, il avait une aventure, mais des gens ont des aventures dans la vie, quoi, ça arrive, et que c'est après, une fois qu'il a été mis au placard, qu'il savait plus trop quoi faire, et que du coup, il a monnayé ces trucs avec les services chinois. Enfin, c'est la question de, est-ce que c'était déjà le recrutement qui a fini par payer, ou est-ce que, dans une certaine mesure, la DGSE l'a un peu précipité en le laissant dans les bras du renseignement chinois, quoi.
Il y a un petit peu des deux. Disons que Hong Jin, la fameuse interprète chinoise de 32 ans, elle était pas, c'était pas une agent du renseignement au sens où elle était rattachée directement à ce service-là, mais les interprètes et le personnel diplomatique chinois qui officie dans les ambassades étrangères de Pékin rencontrent régulièrement de manière hebdomadaire au service chinois sur les gens qu'ils ont vus, sur l'état aussi des relations qu'ils ont. Donc je dirais qu'elle était... elle était pilotée indirectement et la grande difficulté qu'ont les experts du contre-espionnage chinois et de la Chine en général, c'est que la Chine, c'est pas uniquement un service, ce serait pas, le danger vient pas uniquement du MSE ou de la sécurité publique chinoise, il vient d'une diaspora, d'une communauté chinoise qui peut à tout moment collaborer, sur lequel on peut appuyer, faire pression, et ça c'est vraiment une force qu'ont les... un avantage concurrentiel qu'ont les dictatures par rapport à un État démocratique. Donc c'est un petit peu de ça. Après, ils ont été assez malins pour appuyer sur là où ça faisait mal, où ils étaient véritablement aussi au courant que Henri avait des relations avec sa femme qui étaient peut-être un peu compliquées, que pour lui, les débuts en Chine n'étaient pas forcément idylliques, et en tout cas ceux qu'il espérait. Donc,
C'est fascinant parce que c'est le... C'est le truc, c'est l'acronyme qui revient très régulièrement dans le milieu de l'espionnage, enfin, du contre-espionnage aussi, et que vous mettez, qui est tout à fait au centre de l'ouvrage, c'est MICE, pour les différentes motivations qui peuvent amener quelqu'un à trahir ou à être recruté. Alors expliquez-nous peut-être, parce que Henri, là, il y a à peu près tout, quoi, dans son cas.
Oui, ben MICE, c'est M pour monnaie, I idéologie, la compromission et l'ego, et c'est vrai que traditionnellement, on va dire que les maîtres espions du contre-espionnage disent que l'idéologie est le meilleur vecteur, qui est le plus durable, là où on est certain d'avoir le moins de surprises. Après, l'argent est évidemment le plus courant, mais un agent qui est corrompu peut se corrompre et se vendre à un autre service, donc c'est quelque chose qui est quand même... Et donc Henri, il y avait l'argent, il y avait aussi l'ego qui était quand même très important, avec quelqu'un qui estimait qu'il n'avait pas... qui avait eu une belle carrière à la DGSE, mais qui aurait pu en avoir peut-être une plus belle, et puis qui était, à un moment donné de sa vie aussi, où il avait peut-être envie d'autre chose, et donc ces deux leviers-là, l'ego et l'argent, l'ego est peut-être plus... Enfin, les deux vecteurs sont vrais pour les deux espions, mais Pierre-Marie, on verra peut-être, le second, lui, était véritablement attiré par l'argent, mais a été beaucoup plus déclassé, avait eu une carrière bien moins reluisante qu'Henri.
Alors parlons-en, justement, c'est donc le deuxième échelon, donc il y a cet Henri qui est recruté, qui va faire sa vie en Chine et qui est un peu entretenu par les services chinois pour tous les renseignements qu'ils lui donnent, puis il y a un moment où les sources tarissent toujours, où n'étant plus à la DGSE, il ne peut plus rien apprendre de plus, donc il ne peut pas leur donner plus d'informations. Et donc c'est le moment où il se met lui-même à recruter un deuxième agent, quoi.
Oui, alors ça prend du temps, hein, parce qu'il collabore dès 1998, et c'est finalement en 2006, selon les éléments de l'enquête, que Pierre-Marie est recruté par Henri. Alors Pierre-Marie, c'est quelqu'un qui est... Henri est un militaire, Pierre-Marie, lui, est un civil. Il est entré au SDEC à l'époque, en 79. C'est quelqu'un qui est assez, on va dire...
Le SDEC, c'est le grand-père de la DGSE et de la DGSI.
Quelqu'un qui est un anticommuniste féroce, qui est versaillais, assez... un fervent catholique, et c'est quelqu'un qui est aussi un pur produit du contre-espionnage, qui a eu une carrière, on va dire, il a été quand même le chef du bureau de subversion, où il a couvert un petit peu notamment tout ce qui était organisation de masse, le mouvement des Brigades Rouges, mais c'est quelqu'un qui est assez clivant, qui a beaucoup d'ennemis dans la maison, qui est encore une fois très, très anticommuniste, qui a quelques soucis avec l'alcool, et donc il est peu à peu déclassé, mis aux archives, et donc...
C'est génial, je vais juste le dire, son surnom apparemment dans la maison c'était Bob Pinard,
voilà.
En référence évidemment au mercenaire français Bob Pinard, voilà, je trouve que ça dit assez bien le portrait que vous en faites par ailleurs.
Oui, il avait ce surnom-là auprès de certains de ses collègues, et donc lui, au début des années 2000, il officie aux archives, et Henri, qu'il avait croisé dans les années 90, boulevard Mortier, le recontacte, et à ce moment-là, Pierre-Marie, qui a 5 enfants, qui a un train de vie à tenir, qui a besoin d'argent, bah, finalement va basculer, et c'est lui qui va véritablement fournir du renseignement, des notes. Souvent c'était une synthèse de notes en fait qu'ils pouvaient consulter, des notes jaunes par exemple qui étaient adressées au ministre de la Défense, beaucoup de choses sur l'Afrique, sur la Crimée en 2014, voilà, ce qui vraiment intéressait de ce qu'on a pu percevoir, hein, les Chinois, étaient l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc là, Pierre-Marie va leur livrer des notes par le truchement d'Henri qui revient en France, en terrain neutre en Thaïlande. Et puis il fait des voyages également avec sa femme dans des palaces 5 étoiles durant une semaine où voilà, ils vont passer un séjour au Sri Lanka, aux Seychelles.
C'est-à-dire des trucs pas trop loin de la Chine, mais pas complètement en Chine non plus.
Voilà, pour pas attirer aussi le...
C'est bien de garder un minimum de discrétion quand même, quoi.
Exactement, ouais.
Mais juste, vous y avez fait quelques références, ça c'est une partie un peu mystérieuse du truc. Donc si on est dans le maïs, donc monnaie... compromise, ego, ok. Et la partie idéologie, et ce qui est intéressant dans ce que vous nous décrivez, c'est que les deux sont des Versaillais, catholiques, un peu de vieille famille, de très ancrés plutôt à droite. C'est-à-dire, le Parti communiste chinois, ça n'a pas l'air d'être tellement leur tasse de thé a priori, et pourtant, c'est quand même à eux qui vont trahir, quoi. C'est un truc qui reste un peu mystérieux dans cette affaire.
Mais ça l'est d'autant... Enfin, je dirais qu'il y a deux profils. Il y a Pierre-Marie, qui est assez lisible, qui est vraiment l'anticommuniste féroce, qui, quand il était au bureau qui couvrait les organisations de masse, qualifiait très souvent de ce qu'on nous a rapporté un tel de vérole communiste. Donc c'est quelqu'un qui s'est vraiment construit là-dessus. Mais je dirais que le ressentiment, au bout d'un moment, le déclassement, le besoin d'argent ont été tels qu'il a pu passer au-delà de ça. Et d'ailleurs, lors du procès, il a dit que lui, il n'avait pas eu le sentiment de trahir la France, mais il trahissait la DGSE. Donc voilà, lui, il était, on va dire, assez... Henri, c'est différent, parce que Henri, c'est quelqu'un qui est dépeint comme plus romanesque. Certains l'ont décrit un peu en Casanova, en aventurier. Donc lui, il a reconnu que voilà, ce qu'il avait fait lors du procès était pas bien, qu'il le regrettait, mais que voilà, pris dans un certain engrenage et dans une volonté de vivre des expériences, ben, ça l'avait amené... là, mais c'est vrai que c'est le ressort véritable des deux est peut-être pas exactement le même. Mais après, je vous rejoins, c'est toujours paradoxal et contre-intuitif de voir des gens qui sont des parangons de patriotisme et qui affichent le drapeau à tout bout de champ céder à une puissance étrangère. Mais c'est aussi ce qu'on peut voir actuellement sur la Russie, avec beaucoup de gens entre guillemets patriotes qui finalement servent une cause qui n'est pas une cause nationale.
Ouais. C'est dans les milieux versaillais qu'on recrute les meilleurs espions communistes, en quelque sorte. Bon, au-delà de ça, et ça permet de passer à la partie plus structurelle et institutionnelle, c'est l'éventail de possibilités qui s'ouvre à la DGSE à ce moment-là, quoi, à partir du moment où... Alors déjà, où sont les doutes, quand apparaissent les doutes, comment est-ce qu'on traite des doutes, mais ce qui veut dire aussi comment est-ce qu'on traite des anciens agents, à quel point est-ce qu'on garde l'œil dessus ou pas, parce que des anciens agents, bah, y en a beaucoup, et vous l'avez dit, les moyens sont quand même relativement limités à l'échelle des grandes nations du renseignement, donc... On peut pas passer toute sa vie à surveiller les anciens de la maison non plus. Donc voilà, comment est-ce qu'ils s'aperçoivent du problème et comment est-ce qu'ils s'en chargent ou pas ?
Alors ils s'en chargent mal puisque le résultat a été ça, mais disons que pour Henri, il y a eu... bon, dès qu'ils ont été alertés de la relation, il a été convoqué et mis à la retraite. Après, la DGSE a quand même tenté de garder un œil sur lui, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des consignes qui étaient passées de manière... occasionnel, soit au chef de poste de la DGSE, donc l'équivalent de l'ambassadeur de la DGSE en Chine, soit à certains agents qui se rendaient dans la région, de savoir où il est, ce qu'il faisait. Donc, je dirais que ça n'a pas été totalement lacunaire et qu'il y a eu quand même de l'information et du renseignement qui est remonté. Derrière, le problème, c'est comment est-ce qu'il a été traité ? Est-ce que la direction du renseignement a véritablement donné toute son importance à ces notes qui lui arrivaient ? Est-ce qu'un jeu d'agent double, effectivement, ou d'agent triple écartelé a été tenté ?
Ce que vous évoquez, c'est l'hypothèse que anonyme de la maison dit, c'est... Ça paraît bizarre qu'ils aient pas essayé de le re-retourner, que ce personnage si problématique, identifié comme problématique, sur lequel il y avait des informations, ça paraît pas de la négligence. Peut-être qu'ils ont essayé de le re-retourner pour le compte de la France, ou de faire passer des fausses infos par lui. Ça paraît étrange, quand même, qu'ils aient juste oublié à quel point ça pouvait être un danger.
Oui, non, bien sûr, ce témoin, enfin, ils sont quelques-uns à nous avoir effectivement dit, qui étaient à l'époque dans la maison, que ça paraît impensable et absolument illogique et irrationnel que la DGSE n'ait pas tenté effectivement de le faire revenir à elle, de lui donner du renseignement un peu bullshit, un peu mitonné pour donner aux Chinois, mais en tout cas ça n'a pas marché. On n'a pas eu d'éléments en tout cas palpables là-dessus, mais monter une telle opération, ça nécessite quand même, enfin voilà, ce que disent beaucoup, c'est vraiment un boulot d'officier traitant, faut être très bon, faut être créatif. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce qu'on a été capable et en mesure de le faire sur la durée ? Ça, visiblement, ça n'a pas été le cas.
Le problème, c'est que de l'extérieur, on juge forcément que les résultats, et les résultats, en l'occurrence, là, ils sont vraiment pas brillants, en tout cas, de l'extérieur. Après, on ne sait pas quelles fausses informations sont peut-être passées aux Chinois, mais bon.
Mais c'est vrai qu'il y a eu un trou noir durant cette zone-là, notamment de fin des années 90 jusqu'au début des années 2000. Après, on peut imaginer que... C'est évident que 2006, donc Pierre-Marie est recruté par le truchement d'Henri, la DGSE est aveugle, parce que si elle avait identifié effectivement un lien entre les deux hommes et un lien encore plus avec la Chine, on peut clairement imaginer qu'il se serait passé quelque chose. Donc je pense que sur Henri et les débuts, parce qu'Henri avait quand même retourné vivre en Chine, il s'est installé sur l'île de Hainan où sont installés les sous-marins chinois, donc voilà, il y avait quand même un faisceau quand même assez qu'il aurait été compliqué de ne pas le voir. Pour Pierre-Marie, ça a été plus compliqué. Donc je dirais qu'elle a vraiment... elle a été aveugle et l'erreur a été à partir de ce milieu des années 2000, puisque véritablement, elle s'en rencontre en 2015. Et c'est là où il y a un signalement de Tracfin. Tracfin qui, en fait, est chargé aussi d'étudier un petit peu les...
Tracfin, rappelons, c'est juste, ils suivent les mouvements d'argent. C'est ça leur métier, quoi. Ils font pas de contre-espionnage. Ils sont là pour... Ils voient les dépôts d'argent un peu soupçonneux. Et ce que vous indiquez, c'est que c'est juste la femme de Pierre-Marie qui fait des gros dépôts en cash à la banque, ce qui est, bon, pas malin quand on veut blanchir des paiements liquides pour de l'espionnage au profit de la Chine, c'est mieux de ne pas les déposer directement à la banque.
Oui, non, c'était très amateur de revenir avec des sommes de 10 000, 20 000 euros de cash et de les mettre à la banque familiale en Saône-et-Loire, c'est sûr que... Et Tracfin, c'est vrai qu'il y a notamment une des missions de Tracfin est de surveiller, on va dire, l'environnement, que ça peut être des fonctionnaires, des politiques, qu'il n'y ait pas d'anomalie, bah là, à repérer ça assez rapidement, et parce que Pierre-Marie était encore agent actif de la DGSE à l'époque. Et donc c'est à partir de là où finalement tout après s'est mis en branle, où la DGSE a mis en œuvre une traque, des interceptions, des suivis très importants de Pierre-Marie et d'Henri. Ils ont été passés au détecteur de mensonges, il y a eu pour à peu près 600 000 euros.
Ça, c'est marrant. C'est marrant. Ce qui est marrant, c'est que, on y reviendra peut-être après, mais au procès, la DGSE leur présente la note, quoi. Présente vraiment l'addition de combien ça leur a coûté de traquer les deux traîtres pieds nickelés. Ça coûte 600 000 euros, voilà, sur quelques années.
Oui, non, il y avait une... Enfin, via l'agent judiciaire de l'État, en fait, la DGSE s'était portée partie civile et demandait, alors au total, même 1 million d'euros, parce qu'elle estimait donc environ 600 000 euros qui étaient liés à ce qu'elle avait dû dépenser en frais d'enquête, également en démantèlement du dispositif de la DGSE en Chine. Donc c'est peut-être ça, en fait, le plus aussi, qui est le plus compliqué, parce que c'est des gens qu'on a immergés, si c'est des clandestins, durant de longues années pour obtenir du renseignement. C'est des honorables correspondants qu'on a depuis longtemps, et puis du jour au lendemain, parce qu'on a le qui est dans la bergerie, ben on doit tout démanteler. Et donc ça met des années à être reproduit, à être... donc ça, c'est vrai que c'est un véritable dommage qui a été causé à la DGSE. Et donc elle demandait voilà, 1 million d'euros d'atteinte à son image et pour rembourser ces fameux frais d'enquête qui avaient été dépensés.
Atteinte à son image, c'est un peu... Enfin, bon, y a un côté, bah... Ouais, enfin, ils ont un peu s'en prendre quand même, mais bon, c'est un peu leur métier à la base. Mais justement, puisqu'on passe au procès, c'est un enjeu, et puis c'est une tension que vous décrivez assez bien. C'est faire un procès ou pas faire un procès. Enfin, il y a cette tentation, apparemment, toujours, dans la DGSE, de régler les trucs en interne. Peut-être c'était ça la tentation aussi pour Henri, de le retourner, qu'un agent n'est jamais perdu dans une certaine mesure, etc. Et de ne pas faire de procès, parce qu'en plus, il faut avoir des autorisations qui remontent assez haut pour engager des poursuites judiciaires. Or là, bah, ils y vont quand même. Ils font quand même le procès. Vous me disiez au début, c'est ça qui sortait un peu de l'ordinaire. Donc pourquoi sur ce coup-là, il fallait aller en justice?
Il y avait un moment, donc on est... quand l'article 40 a lieu, on est en 2017... mais voilà, depuis 2015 véritablement, la DGSE, la DGSI ensuite a été mise dans la boucle, mais il y a eu tellement d'éléments, si vous voulez, qui avaient été récoltés par la DGSE puis par la DGSI, sur notamment des traces de virements, c'était environ 360 000 euros entre les deux qui ont été où la justice a pu vraiment identifier qu'ils avaient perçu ces sommes-là, même si c'est peut-être davantage. Donc voilà, il y avait véritablement des éléments factuels. Et puis on était à un moment, on va dire, peut-être en toile de fond géopolitique, où la Chine était de plus en plus véhémente, conquérante. Il y a eu beaucoup de cyberattaques qui ont visé, de cyberattaques d'origine chinoise qui ont visé des intérêts français. Il y a eu... Donc voilà, on était à un moment donné où le politique, parce que ce n'est pas une décision uniquement de Bernard Bajolet, même s'il a joué un rôle et qu'il a vraiment voulu aller au procès, mais côté Élysée à l'époque, donc sous François Hollande, on a validé cette option-là, et donc le fait d'envoyer aussi un message aux Chinois, de dire « écoutez, vous pouvez être actif et agressif, mais nous on le sait et on prend aussi des mesures en interne ». Donc c'était un peu la conjonction des deux, à la fois des éléments quand même qui étaient assez accablants, et en même temps une volonté de donner des signes à la Chine, comme en interne d'ailleurs, de dire aussi aux agents de la DGSE, certains par le passé avaient pu montrer quelques faiblesses, bah, de dire voilà, ceux qui fauteront à l'avenir, sachez qu'ils seront sanctionnés.
C'est ça le tarif, et du coup c'est quoi le tarif? Ils ont pris combien?
Ben, ils ont pris 8 et 12 ans. Henri a pris 8 ans, même s'il a été un petit peu, on va dire, la cheville ouvrière de tout ça. Mais il n'a pas transféré de notes véritablement classifiées comme Pierre-Marie, dont environ une dizaine de notes ont été retrouvées chez lui, notamment en Saône-et-Loire, mais également dans la banlieue parisienne. Donc voilà, et Henri, depuis, est sorti de prison pour raison de santé. Et, Pierre-Marie, aux dernières nouvelles, était encore emprisonné. Ouais. China girl, I hear her heart beating
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, au-delà de la partie donc rocambolesque, tragique, qui ferait un bon scénario de film d'espion ou de série, c'est ce que ça révèle donc du sujet un peu plus large de l'ouvrage, qui est la relation, en tout cas la problématique française face aux renseignements chinois. Parce que c'est tout bête, mais la présence et la centralité de Henri, par exemple, sur ces dossiers chinois, bah, c'est aussi lié au fait qu'il y avait originellement pas énormément de monde qui parlait mandarin, quoi, enfin qui était sinisant dans l'enseignement français. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire le tableau de cette sorte de retard, quoi, et puis de monter en puissance progressive sur le dossier chinois dans l'univers français du renseignement? Vous avez commencé tout à l'heure à nous dire que au début des 90, c'était pas stratégique. Donc, où, quand, comment est-ce que ça le devient la Chine?
Bah, disons que c'est vrai que dans les années 80, 90. 2000, finalement, jusqu'aux années 2010, où vraiment là, la puissance chinoise a émergé, où on a commencé à se dire, au niveau politique, que c'était un objectif et donc qu'il fallait que les services nous rapportent de la matière là-dessus, la Chine n'a pas véritablement été le focus central de nos services. Et donc il y avait assez peu de... à la fin des années 90, par exemple, au contre-espionnage, il y avait un seul analyste qui était chargé de la Chine. À la DGSE, donc c'est quand même assez, assez faible.
C'est vrai que c'est pas très grand, il n'y a pas grand monde en Chine, donc un seul bonhomme, ça devrait le faire, quoi.
Voilà. Donc ouais, non, mais... et puis après, bon, c'est un petit peu... je dirais, en fait, les services, mais c'est vrai également à la DGSI, se heurtent finalement à plusieurs problèmes. Le problème, c'est trouver des sinisants qu'on peut estimer fiables, et une méfiance un petit peu organique. Et... Donc ça, c'est pas évident. C'est très compliqué de faire du renseignement en Chine comme en Russie. Enfin, c'est un petit peu des enfers où les espions occidentaux sont suivis, tracés en permanence. Donc il y a eu assez peu, finalement, quand même, de ce qu'on nous a rapporté de renseignements de première main obtenus sur le sol chinois. Et il y en a eu généralement, voilà ce que disent les espions, c'est que sur la Chine ou la Russie, c'est peut-être plus simple d'en faire via les pays périphériques où on peut avoir un peu plus de marge de manœuvre que dans ces pays-là où véritablement on va avoir les agents du MSE, du FSB ou du GRU, de n'importe quoi, qui vont véritablement traquer.
Ce que vous décrivez, c'est qu'ils sont très lourds en Chine comme en Russie, les services de contre-espionnage. C'est pas dans la dentelle, quoi. Il y a deux types qui vous suivent dans la rue tout le temps. Enfin, c'est très très. Je sais pas si c'est très ouvert ou pas subtil, mais en tout cas, c'est bon, ça se voit.
Oui. Non, puis on nous avait raconté, enfin, en Russie, par exemple. Un diplomate qui arrive en Russie, bah, une fois, il va dans un bar. Il se retrouve avec une blonde ravissante à côté de lui. Le lendemain, c'est une brune tout aussi ravissante. Et le surlendemain, c'était un homme. Donc voilà, il y a une espèce d'agressivité, de vouloir un petit peu faire de la tentation partout.
C'est simple, quoi. Enfin, ça a l'air très... très... Alors, je veux dire, on lit un roman de John le Carré, on voit que c'est des trucs à 12 bandes, etc. Ce que vous décrivez, c'est que il y a ça, et puis il y a aussi des trucs beaucoup plus basiques et bas du front et qui marchent tout à fait bien aussi, quoi.
Oui, non, mais c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est qu'à travers ces deux trahisons, puis il y a même eu d'autres, on va dire, signes de faiblesse d'autres agents, c'est que finalement, ces espions, c'est pas du tout James Bond, ou c'est quand même, il y a des failles humaines, il y a le levier du ressentiment, de l'argent, c'est quelque chose qui marche très bien, et voilà, après, sur véritablement la montée en puissance de la DGSE en Chine, enfin, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, la DGSE est perçue comme un service qui est très compétent dans le contre-terreau, en Afrique, au Sahel, au Moyen-Orient, mais sur la Chine, c'est pas un objectif politique, en fait, pour la France. Donc je dirais qu'à la limite, C'est un petit peu dur de charger la DGSE et de dire qu'on a des espions qui sont mauvais, parce que le focus politique et l'orientation politique, quand on regarde les fameux PNOR, Plan National d'Orientation du Renseignement, des dernières années, alors des deux dernières années, on a mis beaucoup plus quand même de renseignements économiques et financiers, de renseignements technologiques, mais depuis quasiment une vingtaine d'années, enfin depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, puis après surtout depuis les attentats de 2015 en France, enfin, on a été dans une époque d'âge d'or et de focus unique quasiment sur le contre-terreau et les domaines qui relevaient du contre-espionnage, de renseignements scientifiques qui menacent aussi, c'est un petit peu ce que disent beaucoup d'espions, c'est qu'il y a un petit peu de menace, il y a une menace sociétale que fait peser par exemple le terreau, et puis il y a les menaces vitales, un peu stratégiques, et là on est véritablement dans le contre-espionnage, dans des services adverses qui vont essayer de capter nos intérêts nucléaires, scientifiques, de l'influence, en fait, qui menace en fait ce qui fait notre force, ce qui menace la place de la France dans le monde, ce qui menace notre essence. Et probablement, nous on l'a noté, mais de beaucoup de chercheurs le soulignent, il y a eu un manque, et il y a le contre-espionnage et la volonté d'acquérir du renseignement sur les pays probablement comme la Chine, qui ne sont pas une menace au sens sécuritaire et terroriste du terme, c'est véritablement le parent pauvre du renseignement aujourd'hui.
Du renseignement français, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous faites aussi un point de comparaison, par exemple, avec le monde anglo-saxon. Vous dites, les agents de la DGSE en Chine, en général, ils sortent pas. Quasiment comme consigne de pas sortir parce que on a peur qu'ils se fassent tamponner, retourner, etc. Je crois que ça part des Anglais, mais d'une manière générale, on sait que les pays anglo-saxons, c'est les Five Eyes, ils communiquent, ils partagent beaucoup de renseignements, etc. Donc c'est pas que des Anglais quand c'est des Anglais, mais ils sont montés en puissance de manière très très agressive depuis une demi-décennie, disons, et que voilà. Clairement, c'est pas, il n'y a pas les mêmes performances et il n'y a pas la même agressivité dans la capacité à monter en puissance dans l'enseignement sur la Chine, en France et puis chez les cousins anglo-saxons, quoi.
Alors c'est clair, pour eux c'est une véritable priorité, voire parfois une obsession côté américain. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que le côté français, quand on veut un peu minorer le fait qu'on manque de renseignements sur la Chine, par exemple, on accuse un petit peu les Five Eyes et les États-Unis de d'avoir du renseignement, mais de mener aussi une guerre qui est tellement idéologique que le renseignement qu'ils peuvent fournir serait du coup un petit peu à prendre avec des pincettes. Sauf qu'on a vu quand même dans beaucoup de dossiers, notamment judiciaires, menés par des cyberespions chinois aux États-Unis ou même en France, que le renseignement, en tout cas américain, obtenu par les Five Eyes, souvent était de très bonne qualité. Et alors oui, comme ils mettent beaucoup plus de moyens et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent, ils trouvent. Hein, ça, c'est une logique imparable dans l'enseignement. Mais c'est sûr que souvent, c'est l'argument qui peut être, moi, je trouve un peu agaçant côté français, de dire, voilà, les Américains, c'est sûr, c'est orienté. Et donc, mais voilà, ils mettent tellement de moyens, parce que pour eux, c'est un problème massif. C'est une guerre économique, c'est des brevets américains qui s'en vont, donc c'est du chômage, c'est des entreprises qui ferment, et donc ils mettent des moyens colossaux. Et en France, tout en reconnaissant, parce que dans l'administration ou même dans le politique, aujourd'hui, on a un discours qui a évolué quand même vis-à-vis de la Chine. On reconnaît que la Chine est une menace. Jean-Yves Le Drian et la Commission européenne parlent de rival systémique, tout en étant un partenaire, mais rival systémique quand même. Et on admet quand même que la Chine fait peser une menace constante sur nos intérêts économiques, donc sur nos entreprises, sur la valorisation de nos brevets. Mais on ne va pas au bout finalement de cette logique-là, qui serait une logique d'essayer de faire plus barrage, d'accorder plus de moyens de contre-espionnage, de faire plus de pédagogie auprès des entreprises, même si la DGSI le fait, mais c'est rien par rapport finalement à la force de frappe chinoise. Et aujourd'hui, on n'est clairement pas aligné sur ce que font les Five Eyes, c'est évident. Oui.
Alors là, jusqu'à présent, on était dans la partie donc DGSE, donc le renseignement extérieur. Là, vous faites référence à la partie DGSI, donc le renseignement intérieur, donc le contre-espionnage. Parce que c'est ce qui est aussi intéressant et détaillé dans l'enquête. Et on le sait par ailleurs, ou au moins on s'en doute, c'est que Bah voilà. Enfin, en quelque sorte, si on s'occupe pas de la Chine s'occupe de nous, et il y a une augmentation assez vertigineuse des opérations chinoises en France depuis bon une décennie au moins. Donc peut-être dites-nous de quand ça date, et puis aussi ce qui les intéresse évidemment, et comment ils s'y prennent, disons, cette augmentation des opérations chinoises en France.
Il y a eu véritablement une hausse à la fin des années 2000 où les Chinois, et notamment via le cyber, ont attaqué. Alors, c'est arrivé un peu d'abord aux États-Unis, puis il y a eu une cyberattaque qui a visé Areva en 2008-2009, où beaucoup de gens qu'on a pu rencontrer qui ont étudié un peu ce cas-là disaient que ça provenait de Chine. C'était à l'époque un peu plus facile d'attribuer, parce que bon, dans le cyber c'est toujours compliqué d'attribuer, mais à l'époque les Chinois faisaient des attaques qui n'étaient pas tellement sophistiquées, donc nos services l'attribuaient assez facilement à la Chine. Après il y a eu beaucoup de...
Ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est aussi votre intérêt, puisque vous êtes journaliste à Challenge, qui est un magazine économique, essentiellement spécialisé dans le domaine économique originalement, mais les cibles que vous détaillez, c'est des entreprises, quoi. C'est, ce qui les intéresse, c'est de l'industrie, de la technologie, des brevets. Enfin, c'est pas, ils vont pas hacker la DGSE, ils vont hacker Areva, Airbus. C'est ça qui les intéresse, quoi.
Alors, dans cette période-là, alors il y a eu effectivement énormément d'entreprises, et notamment dans l'aéronautique, où ils avaient besoin de monter en capacité, en puissance pour leur moyen courrier chinois, le C919. Mais il y a eu aussi le Trésor en 2011 qui a été ciblé à Bercy. Il y a eu le commissariat à l'énergie atomique. Donc, voilà ce qui les intéresse, mais on le lit à l'aune du plan Made in China 25, où ils disent clairement les secteurs où ils veulent monter en capacité et pouvoir les faire localement. Et donc ils vont aller chercher de la technologie qui leur manque ça et là. Et c'est vrai qu'il y a eu une vague dans les années 2010 avec des cyberattaques. Il y a eu Safran, par exemple, avec une affaire un peu rocambolesque, où c'est le FBI américain qui a détecté un hacking qui visait d'abord General Electric, et puis après ils se sont aperçus que ça visait également Safran. Et il y a eu une enquête de très longue durée de la DGSI et de l'ANSSI, qui est le gendarme cyber, et qui a abouti à un procès qui s'est tenu cette année, en début d'année, aux États-Unis. Et encore une fois...
Alors ce qui est intéressant, et c'est un contexte, mais vous l'avez précisé rapidement tout à l'heure, mais on est aussi dans le contexte des embargos des exportations d'armes vis-à-vis de la Chine. Alors même si ça s'est assoupli, un peu dérivé depuis, c'est pas comme en 89 où c'était un non absolu. Mais bon, ça fait que du coup, pour rattraper leur retard technologique... Soit, on en parlait récemment dans une émission récente, soit ils achètent des trucs sur étagère à la Russie et essayent de les copier, soit pour avoir accès aux technologies européennes ou américaines, bah, il faut hacker, c'est le seul moyen d'avoir accès à ces technologies-là, ils peuvent pas les acheter, quoi.
Ou racheter des entreprises et faire des OPA, ce qu'ils ont fait aussi, ce qu'ils savent faire. Donc ils ont toute une palette, c'est vrai, du cyber au rachat capitalistique, en passant par, oui, des achats d'armement et de contrats, voilà. Mais c'est vrai que ce qui a été gênant véritablement, c'était cet espionnage industriel et économique, et qui a heurté. C'est notamment la DGSI qui a une sorte de classement, en fait, qui ventile un petit peu les pays les plus agressifs d'un point de vue économique. Donc ça mouline les infractions dans les entreprises, les OPA, les cyberattaques. Et j'ai pas forcément de chiffres récents, mais en 2015, selon ce classement, la Chine était 10 points devant les États-Unis, le pays qui nous agressait le plus d'un point de vue économique. Donc voilà. Après, on peut quand même constater aujourd'hui et se féliciter du fait que il y a quand même une prise de conscience, il y a un discours politique qui a changé. Il y a une orientation même qui est donnée quand même par le politique au service, de mettre davantage l'accent sur le comprendre et contrecarrer un petit peu ces ingérences-là.
Alors là, jusqu'à présent, on parlait des opérations techniques, notamment cyber, puis aussi un peu capitalistiques, mais il y a aussi du renseignement humain, enfin, des tentatives de capter tout ça de manière humaine. Notamment, on a beaucoup parlé, parce que c'est un peu amusant, sur le papier en tout cas, c'est les fiancées chinoises des jeunes bretons, alors il n'y a pas que ça, mais c'est l'idée que bon, il pourrait y avoir des tentatives d'approcher comme ça des gens qui soit vivent pas très loin, soit travaillent pas très loin de certains équipements très sensibles, notamment concentrés dans une sorte de technopole breton, quoi.
Oui, il y avait eu une note du secrétaire général de la Défense, de la Défense et de la Sécurité nationale, qui avait pointé effectivement en 2018 un nombre qui était croissant de mariages entre des militaires de région Bretagne et des Chinoises, et notamment était pointé un petit peu l'activisme des étudiantes chinoises à Brest. Et donc c'est quelque chose qui finalement est assez ancien, enfin que les anciens connaissent aussi, les marins bretons se basaient à l'île Longue, les ingénieurs nucléaires de l'ENSTA à Brest, ben voilà, ils voient bien qu'il y a des Chinoises qui peuvent être actives et qui peuvent avoir intérêt à ça. Donc c'est quelque chose qui, encore une fois, par rapport au maïs...
C'est un peu compliqué, parce que c'est un peu sensible de dire à un ingénieur ou à un marin, d'ailleurs, si elle s'intéresse à vous, c'est que c'est une espionne chinoise. Enfin, d'ailleurs, parce que c'est pas toujours des espions chinois. Enfin, c'est aussi plus flou, ce que vous nous décriviez. C'est pas que des espions avec un double zéro qui vont tamponner des objectifs. C'est des galaxies beaucoup plus souples et des actifs qui peuvent être ensuite activés par les services chinois, quoi.
Oui, puis il y a encore une fois, pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là, qui sont donc habilités secret défense... s'ils sont mariés en couple, ou même que leur petite amie voilà, est chinoise, russe, nord-coréenne ou iranienne, c'est pas évident qu'ils gardent l'habilitation. Donc, oui, il y a
peu
quand
de
même...
mariages avec des nord-coréens, quand même, en général.
Il y en a peu, oui. C'est pas...
il y a ce truc-là, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu croustillant, mais ce que vous écriviez aussi, c'est, il faut peut-être en dire un mot, les stratégies de tempe grise. C'est-à-dire, au lieu d'aller recruter des jeunes fiancés, plutôt aller chercher des scientifiques émérites et leur offrir des ponts d'or vers la Chine, et du coup récupérer peut-être aussi des technologies qu'ils ont développées, quoi.
Oui, ça c'est un phénomène aussi classique, et voilà, souvent ça peut être des grands ingénieurs, ça peut être des gens qui ont une connaissance très précise, qui sont proches de la retraite ou à la retraite, et qu'on va valoriser en faisant venir en first class en Chine, loger dans un palace, et effectivement on va les inviter plusieurs fois et ils vont être amenés à raconter un petit peu aux autorités chinoises ce qu'ils peuvent savoir de tels composants, de tels fonctionnements. Voilà, ça s'est vu, on appelait ça notamment la technique de la lamproie un petit peu qui se déploie, et ça avait été le cas pour la SNCF dans le ferroviaire, où il y avait eu beaucoup de... les Chinois en fait débriefaient beaucoup, faisaient beaucoup d'appels d'offres par exemple, ça avait été vu, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir leur train à grande vitesse. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est assez...
Ils faisaient des appels d'offres, du coup il y avait des gens qui répondaient avec des caractéristiques, etc.
Et à la fin, l'appel d'offres était déclaré nul, donc voilà, ils avaient donné tellement d'informations dans l'appel d'offres qu'au final c'était même plus l'appel d'offres était caduque, et ils avaient l'essentiel des renseignements techniques et ils étaient capables de le faire eux-mêmes. Ça c'est quelque chose qui a été vu. Après, vous avez toujours, de toute manière, et c'est ça aussi la difficulté, et c'est pour ça qu'on est peut-être plus... il y a un devoir de pédagogie à faire, c'est que vous trouverez toujours probablement des scientifiques un peu naïfs, un peu synobéas, qui vont vouloir, sous couvert de faire des recherches scientifiques et de partager la connaissance, coopérer avec la Chine, et ne pas voir que derrière, il y a aussi des stratégies de réinnovation côté chinoise, de captation de savoir. Donc... ça, c'est une vraie vigilance, et je pense que encore une fois, si on veut un peu positiver et voir que l'État, le gouvernement avance un peu là-dessus, on voit qu'aujourd'hui, le commissariat à l'énergie atomique qui avait des contrats avec Huawei ces dernières années, le Matignon, l'été dernier, a interdit au CEA d'avoir encore des contrats avec Huawei, notamment des contrats doctoraux CIFRE. Il y a eu la même chose à Télécom Paris où Huawei était très implanté et on a interdit d'avoir des contrats de cette nature-là. Donc il y a quand même eu des avancées, mais après je dirais qu'il y a convaincre le monde scientifique que ces partenariats très lucratifs, donc très intéressants pour eux, sont aussi source de déstabilisation et de danger, c'est pas évident, et c'est véritablement un problème, je dirais, plus culturel, que au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est peut-être plus facile de le faire parce que, encore une fois, il y a une pédagogie qui est plus forte, et il y a aussi une... et le renseignement, en général, dans ces pays-là, est aussi mieux vu. C'est vrai que nous, si un chef d'entreprise voit débarquer un agent de la DGSI, il le regardera peut-être avec des yeux plus effrayés qu'un patron londonien verra arriver quelqu'un du MI5, donc... il y a aussi, c'est vrai, un travail à faire à ce niveau-là. Oui.
Oui, surtout dans un contexte où, si on parle de scientifiques, où les universités, les établissements de recherche sont invités à chercher des apports financiers extérieurs pour financer leurs activités. Donc forcément, s'il y a de l'argent frais qui arrive de Chine, c'est toujours plus compliqué de le refuser quand c'est ce qu'on recherche structurellement, en quelque sorte. Mais alors, si on essaye de décentrer une seconde de la Chine et de prendre des points de comparaison, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un classement, mais au-delà du classement du hit parade, quoi, si on essaye de comparer avec les autres grands acteurs du renseignement industriel, mais pas que industriel, par exemple la Russie, si on essaye de comparer en quelque sorte les méthodes, de quelle manière est-ce qu'opèrent les uns par rapport aux autres, quelle est la spécificité, par exemple, du renseignement chinois par rapport au renseignement russe en France, qui existe aussi tout à fait. Enfin, maintenant, j'espère qu'on se méfie un peu plus depuis quelques mois, mais c'est aussi très ancien et très constant, quoi.
Modestement, j'ai l'impression que, voilà, côté chinois, il y a une force de frappe qui est très forte, et surtout, il y a une dominante économique, industrielle, technologique qui est très forte, où véritablement, ce qui les intéresse, je ne dis pas que le renseignement politique ou militaire ne les intéresse pas, mais ce qu'on a en tout cas le plus vu et ce qui m'a été le plus rapporté, c'était vraiment l'activisme pour capter des savoirs et pouvoir après créer, comme l'a dit Xi Jinping en 2049, faire trôner les technologies chinoises sur le toit du monde. Donc il y a encore un travail à... Et voilà, et donc avec un panel et une boîte à outils qui va du renseignement humain au cyber, au rachat capitalistique, puisque la Chine a quand même une manne financière très forte que n'a pas la Russie, par exemple. La Russie, on a plus le sentiment que c'est le renseignement militaire, politique, les cercles de pouvoir décisionnels, ministériels qui les intéressent, même s'il y a eu évidemment des opérations de renseignements économiques menés et parfois même par le FSB, qui est le service de renseignement intérieur, mais qui n'hésite pas à mener des opérations en France dans des dominantes économiques. Donc voilà, et après il y a une approche peut-être russe, encore une fois, c'est ce que ont rapporté certaines personnes, hein, c'est que la Russie a une agressivité très forte, les Russes n'ont aucun problème quasiment à être pris la main dans le sac sur le territoire français. Alors que pour les Chinois, c'est un vrai problème. Hein. Ils ont plutôt une stratégie d'attirer à eux en Chine des. On parlait des dents grises, mais ça a été. Il y avait eu une alerte des GSE, des GSI en 2018 qui disait attention, LinkedIn, énormément, le MSE tamponne et recrute beaucoup de gens et essaie de les faire venir après en Chine. Et puis après, voilà, ça enclenche ou ça peut enclencher quelque chose. Donc voilà, il y a quand même une différence. Et côté russe, il y a peut-être plus de renseignements, on va dire, d'espions des services à proprement parler qui jouent sur le sol français, que la Chine, où il y a un petit peu une zone grise entre ce qui relève véritablement de l'espion de métier du MSE et ce qui peut relever d'un correspondant ou de quelqu'un de la diaspora qu'on va activer. Et s'il ne veut pas, ben on fera pression sur sa famille qui est restée en Chine. Donc, c'est voilà, c'est peut-être un peu plus, on va dire, complet et exhaustif côté chinois, mais. On a vu en tout cas dans les quelques cas, il y a eu aussi côté russe un lieutenant-colonel français en poste à l'OTAN qui a été mis en examen pour avoir livré éventuellement du renseignement au service russe. Donc voilà, dans les affaires en tout cas vraiment qu'on voit, c'est plus de militaires, plus de politique côté russe.
Et les États-Unis, puisque vous nous avez dit qu'ils étaient numéro 2 au classement. Et que on sait que ben on a beau être allié, ça n'empêche pas de s'espionner. C'est toujours plus, même le plus facile. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, combien ils en font et comment ils le font.
Bah, États-Unis. Alors nous déjà, enfin, on en a parlé autant, on a fait un chapitre comme sur la Russie, mais c'est vrai qu'on en parle moins parce que bon, il y a eu, on en parle depuis longtemps. Je veux dire, depuis l'affaire Snowden, aujourd'hui tout le monde sait que les États-Unis font peser une menace. Que notre allié espionne tout le monde dans tous les domaines. Et donc voilà, on l'a bien vu. On a vu avec ce qui s'est passé pour les sous-marins australiens, ce qu'ils étaient capables aussi de faire. Donc je dirais qu'il n'y a pas de naïveté à avoir. Après, sur la manière, sur le renseignement économique, ils ont rien à envier à personne, avec la force de frappe de la NSA, avec tout le renseignement qui peut leur remonter. C'est évident qu'ils nous espionnent, que d'un point de vue économique. C'est voilà. Et Après,
ce que vous découvrez, c'est qu'il y a un truc assez marrant entre alliés, qu'on s'espionne, et quand on se fait gauler, on compense. Il y a un truc de... C'est OK de s'espionner, c'est juste si vous faites prendre, bah, il va falloir compenser avec d'autres choses, mais c'est très transactionnel, quoi. Il n'y a pas de tabou ou de principe, mais simplement, bah, vu qu'on n'est quand même pas trop censé le faire, il faut payer l'addition si on se fait avoir.
Oui, exactement, et ça avait notamment été le cas en 2012, où il y avait eu un espionnage de l'Élysée à l'époque qui avait été... c'était Bernard Barbier, l'ancien directeur technique de la DGSE, qui l'avait à l'époque... quelques plus tard, il avait dit que ça venait des Américains devant, je crois, une école d'ingénieurs, et ce qui lui avait été reproché d'ailleurs. Et finalement, les Américains, un an plus tard, le commissariat à l'énergie atomique était l'objet d'une cyberattaque. Et un petit peu ils se sentaient un petit peu cons, les États-Unis, d'avoir été pris la main dans le sac sur cet espionnage à l'Élysée. Et ils avaient donné à l'époque. Aux Français indiquaient en tout cas qu'ils étaient l'objet, que le CEA était l'objet d'une cyberattaque chinoise. Et ça avait été un peu perçu côté français comme une volonté de bah, regardez, ok, on n'a pas été très clean il y a un an, mais bon, là, on essaie de rattraper le coup et on vous donne cet élément-là. Donc c'est vrai que, et ça, tous les espions qu'on a pu voir le disent, c'est du marchandage, c'est toujours, mais c'est vrai dans l'enseignement satellitaire où tel pays allié peut vouloir un renseignement. Une imagerie satellite, et donc on va pouvoir lui donner, mais en échange. Donc ça, c'est assez... Et avec les États-Unis, il y a encore cette dominante particulière par rapport à la Chine ou la Russie, c'est que c'est un allié, c'est un pays avec lequel on fait du renseignement au Sahel, c'est un pays qui nous fournit énormément de renseignements, notamment sur le terrorisme, et c'est une force pour la France. Mais c'est vrai que du coup, dans les conséquences et dans les suites de l'affaire Snowden, on peut quand même être étonné qu'il n'y ait pas eu plus de reproches adressés politiquement. On se souvient que François Hollande avait quand même, de manière assez soft, reproché des choses à Obama. Mais la relation avec les États-Unis, c'est vrai qu'on l'aperçoit comme...
D'ailleurs, toutes les non-indignations, il y a des renvois d'ascenseur, quoi.
Oui, il y a ça. Après, de toute manière, c'est ce qui avait été dit aussi sur l'affaire des sous-marins australiens. C'est que bon, la France a marqué le coup en rappelant l'ambassadeur... En marquant le mécontentement, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas continuer pendant des mois et des mois à fermer la porte aux Américains qui, même si ont été totalement déloyaux et ont eu un comportement scandaleux dans l'affaire AUKUS, ben, nous apportent aussi un renseignement qui est probablement plus vital qu'un contrat qui, encore une fois, concerne essentiellement quelques entreprises de défense française.
Mmh. Et alors, pour terminer en quelque sorte, mais sur une note un peu optimiste, ce que vous montrez aussi, c'est que bon, il y a cette sorte de faiblesse, en tout cas relative, d'insuffisance relative sur certains dossiers, et puis d'une manière générale, par rapport à des grands mastodontes du renseignement mondial que sont bah, les Five Eyes, et notamment les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. Mais ce que vous montrez, c'est qu'il y a une prise de conscience, alors on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais même numérique, ça se voit très pratiquement, bah, le renseignement français monte en puissance, monte en importance, monte en effectif, monte en budget, et que bah, on est, alors combien de temps ça va durer, mais que après une période peut-être suite aux années 90, c'est les dividendes de la paix, peut-être que le renseignement avait baissé un peu la garde, comme d'autres secteurs d'ailleurs. Là, on est quand même sur une courbe qui remonte, quoi. Enfin, tout est à la hausse en termes d'investissement.
Ah oui, non, mais on voit la DGSE sur aujourd'hui environ 1 milliard d'euros de budget, c'est 7100 agents, et en 2028, ils vont migrer au fort de Vincennes, qui est véritablement un endroit beaucoup plus grand donc pour accueillir ces capacités-là. Encore une fois, je dirais que c'est un petit peu toutes les conséquences des attentats de 2015 qui ont montré que c'était quand même important d'avoir du renseignement sur ce qui se passait en Afrique ou au Moyen-Orient pour se protéger contre le terrorisme. Mais je dirais que si on veut... donc ça c'est plutôt positif, mais si on veut vraiment monter en gamme et s'imposer, il faudra véritablement muscler un petit peu nos capacités, encore une fois on l'a dit, en matière de contre-espionnage, d'économie, et surtout il faudra une impulsion politique. Il faudra clairement que le politique soit capable de dire quelle stratégie clairement on veut et on sous-tend par rapport à la Chine,
mais là,
et ça on l'a pas.
Bah oui, mais en même temps, vous écrivez quelque part à la fin de l'ouvrage que Emmanuel Macron est un grand friand de renseignements, de notes sur le renseignement, que ça l'intéresse, que ça le... Pour autant, enfin, ça ne dépasse pas le niveau de l'intérêt personnel. Il n'y a pas encore eu le grand coup de semonce qui permette de faire le geste politique que vous évoquez.
Bah, y a eu, c'est vrai que la plupart des gens du renseignement qu'on a pu rencontrer saluent effectivement cette appétence d'Emmanuel Macron pour le renseignement, le fait que...
Et au François Hollande et Nicolas Sarkozy l'avaient pas?
François Hollande, visiblement, beaucoup moins, même si effectivement il a été le chef de guerre de Barkhane, il a décidé, il l'avait bien raconté dans un livre d'exécution, mais... Nicolas Sarkozy avait une méfiance quand même un peu traditionnelle avec le renseignement et s'appuyait beaucoup sur ses hommes. Mais non, enfin véritablement, ce qui nous a été dit, c'est ça, c'est que vraiment Macron a, notamment depuis son passage à Bercy, d'ailleurs quand il était à Bercy, c'est lui qui a lancé le fameux comité Cerber, qui est un comité de surveillance de Huawei en France, ce qui était la première fois en fait qu'il y ait un comité qui réunissait cinq ministères, les services de renseignement, l'ANSSI, pour véritablement voir est-ce que Huawei est un danger et suivre au quotidien. Donc voilà, il sait l'importance du renseignement, il a augmenté le budget, les agents. Le renseignement économique a été un petit peu quand même et monté un petit peu en puissance, mais je dirais que je ne pense pas qu'il a, en tout cas, il n'a pas apporté suffisamment. Mais c'est lui autant que Matignon, que Jean-Yves Le Drian peut-être, ou que Florence Parly, une véritable stratégie, une doctrine qui permette de dire, voilà, par rapport à la Chine, qu'est-ce qu'on veut véritablement? Est-ce qu'on veut du politique? Est-ce qu'on veut un renseignement économique? Est-ce qu'on veut du militaire? Et après, voilà, mettre tous les capteurs dans un sens. Et aujourd'hui, on a le sentiment, et ce qui nous est rapporté, c'est qu'il y a quand même un éclatement et un manque de souffle qui viennent d'en haut sur véritablement qu'est-ce qu'on cherche. Alors, on n'est plus à la période
C'est-à-dire,
de...
les moyens se déploient, mais il manque la grande ligne directrice qui les pointe dans le bon sens.
C'est le sentiment qu'on en a. Alors après, évidemment qu'en interne, les gens travaillent, il y a des gens brillants, voilà, mais on n'est plus au temps de Jacques Chirac où il y avait une sinophilie et un alignement entre Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, qui étaient quand même, voilà, qui ont amené à beaucoup de coopération, de signes d'amitié, ou des plans à l'époque de la DGSE et même d'autres services spécifiquement sur la Chine avaient été torpillés assez salement par le politique. Donc voilà,
Vous soulignez que c'est deux personnalités politiques qui gardent de très grands liens, notamment économiques, avec la Chine depuis. Enfin, je veux dire, c'est pas suffit de voir ce qu'ils font depuis pour comprendre un peu rétrospectivement ce que ça pouvait indiquer pour l'époque où ils étaient en mandat, quoi.
Oui, non, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, l'impulsion politique, mais c'est pas évident. Hein, mais j'ai le sentiment, encore une fois, que le Royaume-Uni, même l'Allemagne, qui a pourtant des intérêts financiers colossaux en Chine, sont parfois peut-être plus avancés sur vraiment ce qu'ils attendent de la relation avec en l'occurrence la Chine. La Russie, c'est peut-être plus facile à appréhender, puisque la
Voilà, je pense
Russie.
qu'on a eu un gros choc de simplification, comme dirait
Voilà.
l'autre.
Et même avant, au final, la Russie était quand même perçue comme quand même une menace militaire, mais pas forcément un pays qui nous menaçait économiquement sur nos bases. Mais je dirais que voilà, ça va être probablement le prochain défi du ou de la prochaine présidente, c'est de.
Je pensais qu'on enregistre cet épisode, on ne sait pas encore.
Voilà. Enfin, ça va être le défi en tout cas des prochaines années, c'est de peut-être de réussir à porter d'en haut au niveau politique une orientation claire et que tout l'appareil finalement se mette en ordre de marche pour avoir voilà du renseignement de qualité.
Merci beaucoup, Anthony Zambard.
Merci à vous.
Donc, je rappelle le titre de cet ouvrage paru il y a quelques semaines chez Stock. Trahison à la DGSE, secret de famille du vrai bureau des légendes, qui parle donc de cette histoire sur laquelle on a passé la première partie de l'épisode, mais aussi plus généralement fait un tableau, disons, de la DGSE, de ses orientations et de ses priorités du moment, coécrit avec Franck Renaud. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les notes, remarques et commentaires sont bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que sur les différents outils de notes et de commentaires d'Apple Podcasts ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.